Bien, nous reprenons ce matin notre étude de la vie de Jésus dans l'évangile de Jean. Souvenons-nous, depuis quelque temps, nous faisons cette étude à la découverte de Jésus. Quand vous entendez le mot Jésus, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Un homme, tout simplement, qui a vécu il y a 2000 ans? Quelqu'un dont l'influence était dans le passé, mais qui aujourd'hui, bon, influence un peu, mais sans plus. Ou est-ce que c'est autre chose? Est-ce que peut-être notre conception de Jésus, nos idées, nos croyances même concernant Jésus doivent être corrigées? Peut-être. Et finalement, ce que Jean cherche du début jusqu'à la fin de son évangile à faire, c'est de montrer qui est Jésus, le Fils de Dieu, Dieu lui-même, et en ayant montré cela, ben maintenant que les gens croient, qu'ils placent leur confiance en lui. Et il y a eu jusque-là, dans les trois premiers chapitres de cet évangile, un ensemble d'interactions avec Jésus, donc Nicodème, nous avons vu il y a quelques semaines. Il y a eu les noces à Cana, il y a eu le baptême de Jésus, il y a eu un ensemble d'interactions qui nous ont permis de découvrir, ou peut-être de redécouvrir, qui est Jésus. Et aujourd'hui, nous serons dans le chapitre 3. Alors, je vous invite à prendre ce passage, l'évangile de Jean, chapitre 3, à partir de verset 22. En fait, le passage sera du verset 22 jusqu'au verset 36. Et aujourd'hui, ben, nous allons examiner la découverte de Jésus, mais surtout comment le rendre plus grand aux yeux des autres. Et vous allez pouvoir découvrir cela à travers ces versets et ce que nous allons voir. Suivez avec moi, alors que je lis ces versets, Jean chapitre 3, à partir de verset 22. Après cela, c'est-à-dire tous les événements qui sont intervenus auparavant. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Juda. Et là, il demeurait avec eux et il baptisait. Jean aussi baptisait à Énon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau et on y venait pour être baptisé, car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il s'élevait de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il le baptise et tous vont à lui. » Jean répondit « Un homme ne peut recevoir ce qui lui a été donné du ciel. » Vous-même, vous êtes témoin que j'ai dit « Je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. » Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre, et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Le Père aime le Fils, et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Prions, s'il vous plaît. Oui, Seigneur, nous te remettons ces quelques instants que nous passons dans ta parole, que tu nous éclaires, que tu diriges notre pensée, que tu travailles notre cœur, Seigneur, que nous soyons réceptifs à ce que tu as pour nous et ainsi, par la transformation que toi tu opéreras, tu sois exalté et glorifié par notre vie. En ton nom, nous prions. Amen. Lorsque nous lisons ce passage, il y a un élément, je pense, sur lequel on ne s'attarde pas trop, mais qui est quand même assez frappant. Est-ce que vous vous rendez compte que certains étaient jaloux du ministère de Jésus? Mais être jaloux de Jésus, vous vous rendez compte, c'est quand même incroyable. Mais Jésus, il fait tout à merveille. Jésus, il est parfait. Jésus, il est fils de Dieu. Il est Dieu lui-même. Être jaloux de lui? Non, mais quand même. Être jaloux des autres, oui, peut-être bien. Mais comment pourrions-nous oser être jaloux de Jésus? Et pourtant, oui, nous voyons ici que certaines personnes, voyant ce que Jésus fait, ou plus exactement ce que ses disciples faisaient, alors j'aimerais juste ajouter une petite précision ici, verset 22, alors on y revient, à la fin du verset, et il, alors parlant bien de Jésus, il baptisait. Alors ça pourrait bien sûr nous donner l'impression que Jésus baptise. Et pourtant, chapitre 4, regardez. Le Seigneur, donc on parle bien de Jésus ici, sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors, gardons cela bien à l'esprit. Ces personnes qui étaient jalouses de Jésus se trompaient, bien sûr. Et Jean explique dans un premier temps ce que les gens croyaient, mais après il va rectifier, après il va apporter la précision, d'accord? Donc ne pensez pas que Jésus lui-même baptisait, non. Jean, il est clair que Jésus ne le faisait pas, c'était ses disciples, d'accord? Et ne soyez pas déstabilisés par le fait que dans un premier temps, Jean va dire Jésus baptise. Il le dit parce que c'est ce que les gens croyaient, ils avaient tort. Et Jean va rectifier cela. Donc, petite précision là. Mais on voit que ces personnes étaient finalement jaloux. Et au verset 26, nous le voyons. Ils, donc ces personnes, c'est quelques-uns des disciples de Jean, alors pas de Jésus, mais de Jean, viennent avec une question vers Jean et lui dire, verset 26, « Rabbi, donc enseignant, maître, celui qui va instruire, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. » Alors Jean, tu te rends compte, tu avais toutes ces foules qui te suivaient, toi-même tu baptisais, tout le monde te suivait, toi, et maintenant il y a ce nouveau qui apparaît d'où on ne sait pas où. Et maintenant, tous vont à lui, tous le suivent. Et toi, Jean, qu'est-ce que toi, tu vas faire? Non, mais ça ne te choque pas, Jean? Ça ne te dérange pas, quand même? Et nous, avec le recul, bien sûr, on sait que leur raisonnement est mauvais. Mais mettons-nous à la place de ces gens. Ces personnes ici étaient attachées à Jean, avaient entendu son enseignement. Lui avait entendu parler du royaume, avait entendu parler même de celui qui devait venir après. Et bien maintenant, ils disent, aïe aïe aïe, le ministère de Jean, il va diminuer. Il y a quelqu'un d'autre qui prend le devant de la scène. Et ils disent, aïe aïe aïe, on s'inquiète pour toi, Jean. Qu'est-ce que toi, tu vas faire? Et c'est là où Jean, lui, il va rééquilibrer le tout. Et quelque part, il va les tranquilliser. Et lui, il va mettre l'accent là où il faut. Et c'est là où, au verset 30, au milieu de ce passage, cette parole, cette phrase que nous lisons, que nous voyons parfois, soit dans les maisons ou un peu accrochée dans les différents endroits, il faut qu'il croisse, alors qu'il grandisse, qu'il soit en avant et que moi je diminue. Et nous lisons cette phrase et on dit « Ouais, amen !» Je pense que tout le monde ici dirait « Oui, Jésus doit être en avant. Oui, Jésus doit, entre guillemets, grandir, croître. croître, doit être plus connu. Et nous, on s'efface un peu. Nous, on diminue. Et croyez-moi, c'est facile à dire. Je pense que tous, on serait d'accord avec ça, n'est-ce pas? Que Jésus soit en avant, que quelqu'un d'autre, c'est-à-dire Jésus qui est parfait, qui est Dieu incarné, qui est Dieu lui-même, que lui soit en avant. Oui, je pense qu'on serait tous d'accord avec ces paroles. Mais après, dans la pratique, dans la mise en place tous les jours de ce que nous faisons, est-ce que nous vivons cette réalité? Il faut que lui, il croisse. Mais non seulement ça, mais que moi je diminue. Donc ça va dans les deux sens. Et ceci est extrêmement difficile. Pourquoi? Parce que ça va contre notre nature. Nous voulons grandir. Et moi, je parle même physiquement. Enfin, pour moi, vous le savez. Je ne demande pas beaucoup. Je demande à Dieu quelques centimètres de plus. Ce n'est pas grand-chose, mais quand même quelques centimètres. Dieu, tu t'en as donné tant à tous les autres, tu ne pourrais pas m'en donner un peu? Mais bien sûr, Dieu m'a donné la taille que lui, il a trouvée appropriée. Dieu ne fait pas d'erreur. Mais nous voulons tous grandir. Nous voulons tous même nous améliorer. Nous voulons tous aller de l'avant. Et nous? Bon, quelque part, que les autres avancent, que les autres s'améliorent et tout, ça c'est bien, mais bon, voilà, c'est surtout moi en premier. Et surtout, le monde autour de nous, n'est-ce pas? C'est chacun pour soi. Ben, moi, je vais avancer. Moi, je vais avoir tel ou tel poste. Moi, je vais avoir la meilleure place. Moi, je vais faire ceci ou cela. Et vous vous rendez compte que finalement, ça c'est la pensée du monde. Que moi je réussisse, même si c'est au détriment des autres, même si c'est en trichant, même si c'est en faisant du mal, la pensée du monde, c'est que moi d'abord, moi j'avance. Ce monde, il est égoïste, n'est-ce pas? Ce monde est centré sur lui-même. Et notre nature, si nous ne faisons pas attention, nous pousse dans ce sens, même en tant qu'enfant de Dieu, de dire, le moi d'abord, et après les autres. Bon, si j'ai un peu de temps, si j'ai un peu de ressources, si je crois qu'il le mérite, et puis le temps que je donne pour Dieu, bon, si j'en ai un peu en plus, je lui donne un peu, et puis voilà. Et cette petite parole de Jean, il faut que lui, il croisse, qu'il grandisse, qu'il aille de l'avant, que lui, il soit en avant. Cela va totalement contraire à notre société, à notre propre pensée et à tout ce que nous voyons autour de nous. Tout ce que nous entendons à la télé, tout ce que nous voyons, tout ce que nous pouvons chercher sur Internet. Alors que ici, Jean dit non. Lui, donc Jésus-Christ, lui, il doit croître, il doit grandir, il doit être plus grand. Et c'est là où on se rend compte que notre vision de Jésus, il est peut-être un peu trop petite. Cette vision, on se dit, Jésus, il a vécu il y a 2000 ans, on ne le voit pas avec nos yeux physiques aujourd'hui, on vit notre vie au jour le jour aujourd'hui, le mieux qu'on peut, mais finalement, on fait du mieux. Et après, c'est tout. Arrivera ce qui arrivera et Dieu comprendra de toutes les façons. On ne peut pas faire mieux. Je vous soumets que ce n'est pas ça une réflexion chrétienne. Ce n'est pas une réflexion qui comprend vraiment qui est Jésus. Il faut qu'il croisse, que Jésus soit plus grand. C'est-à-dire que notre vision de Dieu, déjà à nos propres yeux, soit plus grande. Et c'est là où nous allons associer le verset 36. Parce que Jean va dire quelque chose. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Et là, on va être un peu personnel. Est-ce que vous, personnellement, vous avez cru en Jésus-Christ comme le Fils de Dieu, comme celui qui peut sauver et qui a tout fait pour sauver votre âme. Est-ce que vous avez placé votre confiance en lui pour le salut? Est-ce que vous lui avez demandé de vous sauver? Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Quelle belle promesse, n'est-ce pas? Jésus ne dira jamais, comme les politiciens, « Je promets !» Et puis, c'est jamais suivi des faits. C'est un peu à l'actualité aujourd'hui. Les politiciens, de tous les niveaux, font des promesses. « Nous ferons, nous nous engageons, voyez, votez pour nous, et puis tout ira bien. » Et on dit les promesses dans l'air. C'est parler dans le vent, voilà. Mais ici, cette promesse, Jésus, il est assez grand. Il est tellement grand, il est tellement puissant que celui qui croit en lui a la vie éternelle. Cette vie éternelle qui ne s'arrêtera jamais, bien sûr, qui ne peut jamais nous être enlevée. Et de vous poser la question, avez-vous cru en Jésus-Christ pour votre salut? Et c'est ça la question que nous devons poser autour de nous. De quoi est-ce que les gens ils ont besoin aujourd'hui? De la nourriture? Un toit au-dessus de la tête? Moins d'impôts? Moins de ceci ou cela? Plus de ressources ou que sais-je encore? Oui, quelque part, mais leur plus grand besoin, c'est le salut. Et si nous ne commençons pas là, toutes les autres choses sont secondaires. Aujourd'hui, le besoin principal, c'est le salut en Jésus-Christ. Et la promesse de Dieu, c'est que si nous croyons en Jésus pour le salut, il nous sauve éternellement. Rien ne peut changer cela, c'est formidable. Mais vous l'avez constaté, vous l'avez lu avec moi, j'espère, que la deuxième partie de ce verset, celui qui ne croit pas, celui qui ne croit pas, celui qui n'a pas encore placé sa confiance en Dieu. Et finalement, ceci implique que celui qui refuse. Parce que ici, nous n'avons pas simplement une indifférence. Ici, nous avons un refus catégorique du salut en Jésus-Christ. Ce grand salut que notre frère Luc a mentionné tout à l'heure. Le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Si on ne passe pas par lui, pas de salut. Et celui qui refuse Jésus-Christ ne verra point la vie. Mais la colère de Dieu demeure, elle est déjà là. Et c'est ça la réalité aujourd'hui. Et c'est ça qui doit stimuler vous et moi. Aujourd'hui, les inconvertis, les gens qui n'ont pas encore accepté Christ, sont déjà sous la colère de Dieu. Dieu est en colère contre eux. Alors, Dieu est un Dieu d'amour, que ce soit dit clair et haut. Dieu est un Dieu d'amour, mais Dieu est également un Dieu en colère contre le péché. Et ce péché sépare de Dieu. Et celui, la personne qui refuse Jésus-Christ, qui croit qu'il y a un autre moyen d'accéder à Dieu, qui croit ne pas avoir besoin de Jésus, demeure sous la colère de Dieu. Et lorsque nous avons cette vision déjà, nous-mêmes, que voici la réalité, que je suis sauvé par grâce, si je suis sauvé aujourd'hui, c'est parce que j'ai placé ma foi en Jésus-Christ pour le salut. Et que si les autres ne sont pas sauvés, c'est parce qu'ils n'ont pas encore placé leur foi en Jésus-Christ pour le salut, ben cela rend Jésus-Christ plus grand. De savoir qu'il est le sauveur, de savoir qu'il est bien plus que quelqu'un qui veut simplement améliorer un peu la vie des uns et des autres. Non, il est celui qui veut transformer la vie. Et parce que nous perdons cela de vue, malheureusement, notre vision de Jésus est trop petite. Et voilà, il doit grandir, il doit croître pour que Jésus soit plus grand aux yeux des autres, il doit déjà être grand à nos yeux. Nous revenons à ce verset 30. Il faut qu'il croisse. Jésus, bien sûr, il est grand. Nous n'apportons rien à Jésus, nous n'ajoutons rien à Jésus, mais c'est notre vision de lui qui doit grandir. Mais regardez le verset 31. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Donc ça, c'est Jésus. Nous ne sommes pas descendus d'en haut, n'est-ce pas? Nous sommes de la terre. Nous sommes dans la deuxième partie de ce verset. Celui qui est de la terre est de la terre et parle comme étant de la terre. Ça, c'est nous, hein? Ça, c'est nous. Nos repères sont terrestres. Et sans l'aide de Jésus, nos repères vont rester terrestres et ne pourront rien faire. Mais Jésus est là. Et quel privilège, quelle joie! Parce que à la fin de verset 31, Jean le répète, celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Donc il dit au début de verset 31, à la fin, donc répétition, c'est quelque chose d'important, Jésus est descendu et est venu vers nous. Et pas juste pour l'humanité en général, tout le monde, tous les milliards de personnes qui ont vécu. Non, il est venu individuellement, personnellement. Et parce qu'il est venu, nous ne sommes plus dans l'obscurité, nous ne sommes plus dans les ténèbres, nous ne sommes plus sans l'intelligence spirituelle. Nos repères passent d'être des repères terrestres et maintenant nos repères sont célestes en Jésus-Christ. Mais il n'y a que Jésus qui peut faire cela. Alors Jésus est grand parce qu'il vient d'en haut. Jésus est grand parce qu'il fait des choses qu'aucun autre homme ne peut faire. Jésus est grand parce qu'il révèle le Père. Regardez, verset 32. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et ce qu'il a entendu. Et verset 34. Car celui que Dieu a envoyé, alors là c'est bien Jésus, dit les paroles de Dieu parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Jésus est grand parce qu'il révèle Dieu. Si Jésus n'était jamais venu, comprenez que nous ne pourrions jamais connaître Dieu tel qu'il est. Même avec la Bible. Il faut la Bible. Oui, la Bible est la révélation de Dieu. Et il faut s'y tenir, il faut la comprendre, il faut la méditer, il faut la lire, il faut la laisser agir dans notre vie. Mais quelque part, dans le plan de Dieu, Dieu savait que la Bible ne serait pas assez. Alors, comprenez très bien ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas que la Bible est défaillante. La Bible n'est pas du tout défaillante. Elle est parfaite, elle est complète, elle contient tout ce que nous avons besoin de savoir en tant qu'enfant de Dieu. Mais quelque part, dans le plan de Dieu, Dieu savait que de simples paroles écrites sur une page ou des paroles dites de la bouche ne seraient pas assez. Il fallait quand même quelque chose de vu. Et ça, c'est Jésus. Et Jean dit dans ses versets, Jésus est venu du ciel et il est venu pour nous montrer le Père. Au chapitre 17, Jésus lui-même va parler de cela. Il va dire à ses disciples, « Je suis avec vous et je vous ai montré le Père. » Et donc, Jésus est grand parce qu'il vient du ciel, parce qu'il révèle le Père, parce qu'il fait quelque chose que personne d'autre ne peut faire. Et ça, c'est pour aujourd'hui. Ce n'était pas simplement pour il y a 2000 ans. Ce n'était pas pour les 12 apôtres qui étaient avec lui. Ce n'était pas pour simplement pour les chrétiens qui étaient au premier siècle. Non, ça c'est aujourd'hui. Lorsque nous allons au travail, Jésus, si nous sommes enfants de Dieu, Jésus est avec nous pour nous aider à bien répondre à nos collègues qui sont difficiles. Quand nous sommes dans des bouchons, comme peut-être vous étiez hier, ou encore comme j'ai entendu ce matin, quelques-uns l'été. Avoir la bonne réaction et ne pas vous appuyer sur le klaxon comme si ça pouvait changer quoi que ce soit. sans s'énerver, sans se mettre en colère, ben comment faire ça? Ben, c'est laisser Jésus agir en nous. C'est demander son aide. Parce que Jésus est là pour nous aider. Ce n'est pas juste des paroles sur une page, ce n'est pas simplement théorique, c'est dans les choses de tous les jours. Lorsque les moments sont difficiles, lorsqu'on ne sait pas quelle décision prendre, vous savez, par moment, on est face à des choix. Et on doit décider de faire telle ou telle chose. Et là, on se dit, mais qu'est-ce que je fais? À ce moment-là, Jésus est capable de nous aider. Il est venu pour nous montrer l'exemple, pour révéler le Père, ce Père qui veut notre bien, qui veut agir en notre faveur et qui le fait. Ce n'est pas simplement qu'il le veut, mais il le fait réellement. Verset 35, le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Et on va dire, oui, mais c'est normal, Dieu le fait avec son propre Fils. Tous ceux qui sont parents, vous comprenez que vos enfants sont plus importants que les enfants des autres. Non pas que vous n'aimez pas les enfants des autres, mais vos propres enfants sont quand même plus importants que les autres. Et on se dit, mais Dieu le Père, il est normal qu'il fasse des choses spéciales pour son propre Fils. Et que nous, bon, il fait quelques petites choses pour nous, mais voilà, c'est pas comme son Fils. Ah non, 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 non. Qu'est-ce que Paul, lui, va dire? Vous êtes tous fils de Dieu par adoption. Vous tous qui ont cru en Jésus-Christ. Jésus n'a pas honte de nous appeler frères. Nous avons été élevés au rang, au même rang, ce statut de fils aux yeux de Dieu. Et ce que Dieu fait pour son fils Jésus, c'est assez incroyable, ça nous surpasse. Dieu le fait pour nous. Vous vous rendez compte? Et là, vous dites, mais c'est pas possible. Et pourtant, c'est la Bible. Vous allez dire, oui, mais ça c'est Jésus. Il est Dieu, oui. Mais ce même Jésus, il vit en nous si nous sommes enfants de Dieu. Et c'est sa vie qui doit être vue à travers nous. Voilà pourquoi lui, il doit croître. Il faut qu'il croisse, il faut qu'il devienne plus grand, qu'il occupe toute la place dans notre vie et que nous, on s'efface. En tout. Pas juste quelques domaines, mais en tout. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Et ça s'applique dans la vie de tous les jours. Ça s'applique à la maison. Entre enfants, parents, les enfants entre eux, le mari, la femme, entre eux, avec des collègues, lorsqu'on est en voiture sur la route et qu'il y a des fous furieux, lorsqu'il y a quelqu'un qui vous colle derrière, alors moi le premier à dire ça m'énerve. Ah, qu'est-ce que je suis frustré avec ça. Parfois j'ai envie de donner un grand coup de frein pour que la personne me rentre dedans. Bien fait pour lui. Bon, je ne le fais pas. Mais vous voyez, ce sentiment, il est là, hein. Mais qu'est-ce que Jésus ferait à ma place? Si je manifeste la vie de Jésus, si je veux que Jésus, lui, soit vu, est-ce que lui ferait ça? J'en suis pas convaincu. Oui, mais vous allez vous dire, chapitre 2, on a vu Jésus qui nettoyait le temple. Hein? Il a fait un fouet. Il allait battre les gens. Oui, mais c'est parce qu'ils s'en prenaient à Dieu. C'est parce que leur adoration de Dieu n'était pas du tout correcte et qu'ils empêchaient même d'autres d'adorer Dieu. Alors la façon de conduire des gens ne m'empêche pas d'adorer Dieu. N'a rien à voir avec cette adoration de Dieu. Donc, voilà, c'est tout à fait différent. Mais vous prenez les différentes situations de votre vie et vous dites, comment ici est-ce que je peux rendre Dieu plus grand aux yeux des autres? Comment est-ce que je peux manifester Jésus ici? Dans la famille, au travail, même à l'école, pour les ados qui sont là, on a la possibilité, même dans notre société aujourd'hui, qui rejette la Bible, qui rejette tout ce qui concerne Dieu, on a quand même la possibilité de refléter Jésus. Et parents, ça doit commencer à la maison. Parents, ceci doit commencer avec vous. Si les enfants, si les ados ne le voient pas déjà en vous, ne vous étonnez pas qu'eux, ils ne le fassent pas. Et puis ici à l'église, Jésus doit être vu. Entre les quatre murs de ce bâtiment, dans nos interactions les uns avec les autres, Jésus doit être vu dans nos paroles, dans nos actes. Et si ça, Jésus ne se voit pas entre nous, comment voulez-vous qu'il se voit à l'extérieur? Ce n'est pas possible. Ne croyez pas qu'ici, on peut tout laisser faire et qu'une fois à l'extérieur, tout ira bien. Non. Ça doit commencer ici et puis ça doit continuer à l'extérieur. Alors, j'attire votre attention de nouveau sur le verset 32, parce que jusque-là, on met un peu tout l'accent sur la personne qui est en train de rendre Jésus grand, qui dit, oui, il faut qu'il croie ce que moi je diminue. Le verset 32, on parle de Jésus, il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Gloire à Dieu. Mais regardez, personne ne reçoit son témoignage. Quelle tristesse! Jésus, parfait, Jésus qui est Dieu, Jésus qui révèle la vérité, Jésus qui parle des merveilles de Dieu, personne ne reçoit son témoignage. À la limite que les gens ne recevaient pas le témoignage des apôtres, à la limite, si les gens ne reçoivent pas notre témoignage, ok, c'est triste, mais bon, sans plus, mais qu'ils ne reçoivent pas le témoignage de Jésus, quand même, c'est grave. Et pourtant, nous voyons la réalité. Et bien sûr, ce n'était pas la faute de Jésus. Ce n'est pas comme si les gens pouvaient dire, « Ah, Jésus, tu n'as pas dit ce qu'il fallait. » Non, Jésus disait toujours ce qu'il fallait. Ah, Jésus, tu ne l'as pas dit exactement de la meilleure façon. Ah non. Jésus disait toujours parfaitement, de la meilleure façon, tout ce qu'il avait à dire. Et pourtant, il y avait des personnes qui n'ont pas reçu son témoignage. Et ceci est un principe extrêmement important pour nous. Pourquoi? Parce que, au jour le jour, nous essayons de mettre Jésus en avant. Nous essayons de parler comme Jésus parle. Nous essayons d'agir comme Jésus agissait. Et n'avons-nous pas l'expérience que les gens, ils se moquent de nous? Ils sont indifférents, qui est, à mes yeux, presque pire qu'une opposition frontale. Mais ils s'opposent, ils sont indifférents, ils ne reçoivent pas. Et qu'est-ce que cela peut nous conduire à faire? Quand les gens sont indifférents, quand les gens s'opposent, on se dit, mais c'est même pas la peine, n'est-ce pas? Les gens ne veulent pas, alors à quoi bon de continuer d'insister? À quoi bon de continuer d'apporter ce témoignage? À quoi bon d'essayer de montrer la grandeur, la perfection, la beauté de Jésus si les gens ne veulent pas? C'est pas la peine, pourrait dire notre intelligence humaine. Mais Jean dit, personne ne reçoit son témoignage, le témoignage de Jésus. Mais je vous pose la question, est-ce que ça a fait que Jésus a arrêté de rendre témoignage de son Père et des choses que lui, il a reçues? Absolument pas. Il est vrai, la plupart ont rejeté. La plupart étaient indifférents. Mais Jésus a continué de rendre témoignage à la fois de son Père de tout ce qu'il a reçu. Jésus n'a jamais baissé les bras. Et vous allez dire, oui, mais il est Dieu. Il ne pouvait pas faire autrement. Et quelque part, c'est vrai. Mais encore une fois, revenons à cette idée. Si nous sommes enfants de Dieu, Jésus est en nous. Sa puissance est à notre disposition. Et si Jésus n'a pas baissé les bras, ne croyez-vous pas qu'il est capable de nous rendre capables de ne pas baisser les bras non plus? Pourquoi est-ce que nous baissons des bras? Pourquoi est-ce que nous devenons découragés? Pourquoi est-ce que nous disons « c'est pas la peine » C'est parce que notre vision de Jésus n'est pas assez grande. C'est parce que lui, il n'est pas en avant. Et lorsque ces sentiments viennent, et je crois que ces sentiments viennent à tous à un moment ou à un autre, même moi, par moment, je vois le peu de progrès de l'évangile ici en France. Je vois même les progrès petit à petit ici dans l'Église. Dieu voudrait des choses extraordinaires pour cette Église. Dieu voudrait des choses extraordinaires même dans ma vie. Moi, je ne progresse pas autant que Dieu voudrait, j'en suis convaincu. Et parce que nous voyons tous ces obstacles, parce que nous voyons la lenteur, parce que nous voyons de l'indifférence, de l'opposition, on se dit, mais c'est pas la peine. Et dans ces moments-là, de dire si, de revenir à un passage comme celui-ci et de dire finalement, c'est pas moi. C'est Jésus qui est en avant. Et quand je reviens à cette idée, je reprends force. Je me recentre, je me refocalise, je demande pardon à Dieu, s'il faut. Ce ne sera pas toujours nécessaire, mais si c'est approprié, et demander son aide. Il faut que lui, il croisse, donc qu'il soit plus grand, qu'il occupe toute la place, et que moi, je diminue. Et alors que Jésus croisse, je reste en arrière. Bien sûr, Jésus se sert de nous. Et ça, il faut bien comprendre. Jésus se sert de nous dans les différents domaines, mais finalement, ce n'est pas nous. C'est lui qui le fait. Et c'est au verset 28 que Jean va expliquer ceci. Jean confirme, il dit, vous m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, donc loin celui qui devait venir, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Donc quand il y a un mariage, il y a l'épouse, il y a l'époux, et c'est l'un pour l'autre, et les deux se réjouissent, c'est entre guillemets leur jour. Bon, il y a toutes les choses qui tournent autour de ça, mais c'est vraiment pour eux. Mais il dit, l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie. Il ne se dit pas, ah mince, j'aurais aimé que ce soit moi qui me marie. j'aurais aimé que ce soit moi qui soit mise en avant. Non, lors d'un mariage, qui est-ce qu'on va mettre en avant? C'est les mariés, c'est normal. C'est leur jour. Et j'en dis, oui, Jésus est en avant. Et nous, on se réjouit de ça. Mais malheureusement, nous ne nous réjouissons pas si Jésus agit parce que ce n'est pas nous qui l'avons fait. Ah, si quelqu'un d'autre accomplit quelque chose, on est hésitant à nous réjouir. On se dit, ah, mais moi, j'aurais tant voulu faire ceci ou cela, ou moi, j'aurais pu mieux faire, ou moi, j'aurais fait différemment, et si moi, je l'avais fait... Et non, non. Jésus est à l'œuvre, et là où il est à l'œuvre, dans notre vie, ou même dans la vie des autres, il faut se réjouir. Il faut dire, c'est Jésus qui est au centre. Et à ce moment-là, à la fin du verset 29, nous pouvons nous joindre à Jean qui disait « Aussi, cette joie qui est la mienne, elle est parfaite. » Alors, parfaite, non pas dans le sens sans péché et tout, mais parfaite, mais complète, on pourrait dire. Complète, accomplie, certaines traductions le font. Mais elle est parfaite, complète, il n'y a rien à ajouter. Et lorsque cette joie est là, croyez-moi que ces personnes qui ont cette joie sont tellement différentes des gens du monde. On se réjouit de tant de choses parce que notre équipe a gagné tel ou tel match, parce que notre voiture a gagné telle ou telle course, parce que telle ou telle personne a été élue à telle ou telle place, parce qu'on a tellement bien mangé tel ou tel repas. On se réjouit de mille et une choses qui sont tout à fait appropriées, comprenons bien. Mais autant on se réjouit de ça, on devrait d'autant plus nous réjouir que Jésus est à l'œuvre. Mais est-ce que c'est quelque chose que nous faisons? Lorsque nous entendons parler que l'Évangile est prêché dans tel ou tel endroit, même si ce n'est pas ici, est-ce que nous nous réjouissons? Ou est-ce que nous disons, « Ah ouais, bah, j'aurais tellement aimé qu'on fasse quelque chose ici. » Lorsque nous entendons parler qu'il y a eu des conversions ou des baptêmes ou des campagnes d'évangélisation ou toute autre chose. Ah, mais c'est dommage que nous, on n'a pas pu faire ça. C'est... Bon, il faut que nous, on fasse ce qu'il faut, mais que les choses se font dans d'autres endroits. Que Jésus soit à l'œuvre dans d'autres endroits, à travers d'autres personnes. Cela doit nous réjouir tout autant. Et nous devons dire merci Seigneur. Quand quelqu'un d'autre a la possibilité d'apporter l'Évangile, quelle est notre première pensée? Ah, moi j'aurais aimé parler à cette personne. Ou est-ce que, ouais, gloire à Dieu, cette personne a reçu un témoignage, même si ça ne venait pas de moi. Et nous revenons à ce verset 30. Il faut qu'il croisse, il faut qu'il devienne plus grand dans tout. La première réflexion, c'est Jésus, qu'il occupe toute la place, que nous soyons en retrait, parce que c'est lui qui est en avant. Il est tellement grand. Jésus, il est Dieu. Il remplit tout en tous. Et lorsque nous avons cette vision, nous allons pouvoir le rendre plus grand aux yeux des autres. Si ceux qui nous entourent devaient décrire Jésus simplement sur la base de ce que nous leur avons transmis, quelle vision de Jésus auraient-ils? Comment est-ce qu'ils décriraient Jésus? Est-ce que ce serait un petit Dieu? Quelqu'un qui nous aide de temps en temps comme ça, mais qui la plupart du temps nous laisse tranquille et nous laisse nous débrouiller? J'espère que non. Si les gens devaient décrire Jésus sur la base seulement de notre témoignage, quelle vision de Jésus auraient-ils? Et souvenons-nous de ce verset 36. Le plus grand besoin des gens autour de nous aujourd'hui, c'est qu'ils croient en Jésus. Certes, tous les autres besoins qu'ils ont sont importants. Mais leur plus grand besoin, c'est le salut. C'est qu'ils croient en Jésus et que leur vie soit totalement transformée. Et toute notre vie doit être axée autour de l'annonce de ce message-là. Mais si nous devons faire l'examen de notre propre vie, qu'est-ce que nous constatons? Devant Dieu, demain, lundi, comment est-ce que nous serons? Déjà lundi dernier, comment est-ce que nous étions? Est-ce que nous avons rendu Jésus plus grand aux yeux des autres? Est-ce que nos réactions ont été selon Jésus? Ou est-ce que nous nous sommes énervés? Est-ce que nous nous sommes emportés? Est-ce que nous avons eu des paroles qui ne conviennent pas aux enfants de Dieu? Est-ce que nous avons regardé des choses, fait des choses qui ne plaisent pas à Dieu, qui ne ressemblent pas à Jésus? Est-ce que nous avons diminué la vision de Jésus aux yeux des gens qui nous entourent cette semaine dernière? nous pouvons aujourd'hui changer. Nous pouvons aujourd'hui faire en sorte que Jésus, lui, il croisse, il grandisse, il occupe toute la place et que nous, nous diminuons. Et ça peut commencer aujourd'hui. Mais il faut demander l'aide de Dieu. Ce n'est pas juste avec la force de la volonté, aussi forte qu'elle soit. Non, ça vient par la puissance de Dieu. Et ça passe par la demande dans la prière de son aide. Il est prêt à aider. J'aime bien comment au verset 34, « Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. » On est en train de parler spécifiquement de Jésus. Mais Jean explique ici que Dieu donne son esprit à son fils, et par extension à nous, donc l'esprit, la puissance, Dieu lui-même, il donne sans mesure, c'est-à-dire sans compter. Il donne libéralement, avec générosité. Vous savez, quand vous n'avez pas beaucoup d'argent dans votre compte en banque, ben, vous comptez chaque euro, hein. Vous dites, ben voilà, est-ce que je peux faire telle ou telle dépense? Et voilà, on note tout et on calcule, est-ce que je peux? Ben Dieu, c'est jamais comme ça. Il ne dit jamais, est-ce que j'ai assez de mon esprit pour pouvoir donner à mon enfant pour l'aider avec telle ou telle situation? Non, parce que la réponse sera toujours oui. Dieu, il est infini et il peut et il donne 100% de son esprit à chacun de ses enfants. Ça nous dépasse? Mais il le fait parce qu'il est Dieu. Il est assez grand. Alors cette semaine, nous ne manquerons jamais de l'aide qu'il nous faut. Mais il nous faut la demander. Il faut demander dans la prière. Il faut aller vers Dieu. Nous n'avons pas besoin d'affronter ce jour, demain, toute cette semaine, par nous-mêmes. Non. Jésus est là. L'Esprit de Dieu est là. Dieu lui-même est là pour nous aider. Et avec cette puissance à notre disposition, nous ne ferions pas appel à lui. Ce serait tellement illogique. La chose la plus logique, c'est de faire appel à lui et de le rendre grand, déjà à nos yeux et aux yeux des autres. Passons quelques instants dans la prière pour demander son aide, prière silencieuse, et puis je terminerai. Oui, Seigneur, nous te remercions que tu es le grand Dieu et que tu mets ta puissance et tout ce que tu es à notre disposition. Nous sommes faibles par nous-mêmes, Seigneur, nous avons besoin de ton aide et nous faisons appel à toi. Que tu animes en nous ce désir de toujours puiser dans ta force pour tout besoin de notre vie. Que tu nous aides aujourd'hui, déjà, dans toute circonstance, toute situation aujourd'hui, de te rendre grand aux yeux de ceux qui nous entourent. Que tu croisses, Seigneur, déjà parmi nous aujourd'hui, demain, dans nos différentes occupations, tout au long de cette semaine, que toi tu croisses, que nous diminuerons parce que tu en es digne, parce que tu es le grand Dieu. Merci pour l'impact que tu nous permets d'avoir et que cela continue, grandisse et tout, Seigneur, que cela puisse être pour ton honneur et pour ta gloire, qu'il soit évident que c'est toi qui le fais. C'est en ton nom que nous prions. Amen. Amen.